Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Et bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette nouvelle émission, Joël Gombin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, vos travaux portent sur le Front National et sur l'électorat du Front National, entre autres. Vous êtes auteur de nombreux livres, dont le dernier s'intitule « Le Front National va-t-elle diviser la France ?» Point d'interrogation. Vous l'aurez compris, on va parler du Front National en région provençale Côte d'Azur et même au-delà. Mais auparavant, Joël Gombin, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Si à 33 ans, on n'a pas terminé sa thèse, c'est qu'on a raté sa vie. Joël Gombin, vous allez fêter vos 34 ans en janvier. Il n'est donc pas encore trop tard, mais il faut vraiment vous dépêcher. Sans quoi, il ne vous restera qu'une solution, économiser pour vous offrir une Rolex. Mais revenons à l'essentiel. Cette thèse, donc, dont vous allez bientôt remettre le manuscrit à l'Université de Picardie à Amiens, elle s'intitule, avec la sobriété qui sied à toute grande œuvre universitaire, « Éléments pour une sociologie configurationnelle des votes ». Et elle comporte un sous-titre qui explicite son contenu, « Le cas des votes du Front National en Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Résumons pour ceux qui nous écoutent sur Radio Grenouille, peu enclins aux subtilités académiques. Vous êtes un fafologue. Vous étudiez le vote facho. Votre méthode, c'est la sociologie quantitative par opposition à la sociologie qualitative. Là aussi, je me permets de simplifier afin d'éviter que nos auditeurs zappent sur Nova pour retrouver leur DJ préféré. En clair, vous préférez vous livrer à une analyse fouillée et détaillée de toutes les données chiffrées plutôt que de multiplier les entretiens avec les électeurs frontistes. On vous comprend. Donc, mais au fait, voilà, comment on devient fafologue ? Ce n'est pas, en tout cas, en suivant l'exemple de votre père, auteur dans les années 70 d'un ouvrage de référence sur les origines du gauchisme. Né à Paris, vous avez grandi dans le Vaucluse, terre où prospère désormais la sémillante Marion Maréchal, nous voilà, Le Pen, à Sciences Po, Aix-Provence. Prolongeant vos engagements lycéens, vous avez consacré votre mémoire sur l'influence libertaire chez les Verts. C'est sur l'impulsion d'un prof à l'IEP d'Aix, Christophe Traini, j'ai massacré son nom, c'est pas grave, que vous vous intéressez pour la première fois au Front National. C'était il y a déjà 10 ans. Depuis, vous n'avez jamais lâché prise. Car si, depuis Marseille, où vous vivez, vous prenez votre temps pour peaufiner votre thèse, vous êtes sur tous les fronts. Pardonnez-moi le mauvais jeu de mots. Vous multipliez les publications et les interventions dans le débat public et dans la presse. Et vous êtes déjà repéré par de nombreux journalistes comme le chercheur toujours dispo pour éclairer leur lanterne devant les succès répétés des Le Pen. Enseignant à Sciences Po Paris et à Aix, vous êtes aussi membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes le co-auteur, on l'a dit, de plusieurs ouvrages, dont « Droite aux urnes » en région PACA, c'était sur l'élection présidentielle en 2017. Et vous publiez
2007.
Ce mois, 2007, oulala, c'est vrai, 2017, c'est l'année prochaine. Et vous publiez ce mois d'octobre un livre destiné à tous les publics pour proposer un état des lieux du FN, un parti à la croisée des chemins. Ce n'est pas une thèse, mais l'intitulé de votre essai rivalise lui aussi en sobriété. L'éditeur aurait pu choisir un titre plus accrocheur que le Front National, par exemple F comme fasciste, N comme nazi. Une jolie formule, mais qui aurait peut-être manqué d'un peu de rigueur scientifique.
Joël Gambin, une réaction à ce portrait à la sauce ravie, bien sûr.
Ça m'a beaucoup fait rire. Je corrige tout de suite une petite chose, je ne suis pas l'auteur de nombreux ouvrages, c'est mon premier ouvrage en nom propre.
Ah voilà, oui.
J'ai participé à plusieurs ouvrages collectifs.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est pas exactement la même ampleur, on va dire. Non, sinon ça m'a beaucoup fait rire.
Alors tous les sondages l'affirment, Le Pen sera au second tour de la présidentielle, le FN occupe une place centrale dans la vie politique française. Allant même jusqu'à s'immiscer et à devenir, par ces thèmes, le sujet numéro un des primaires des Républicains qui vont avoir lieu. Comment vous expliquez que le FN ait pris cette place centrale ?
En tout cas, c'est clair que c'est l'un des grands succès du FN et depuis assez longtemps, en fait, d'avoir réussi à devenir l'un des sujets centraux du débat politique en France. Et ce, je dirais, même indépendamment du niveau qu'ils ont atteint pendant très longtemps, le FN tournait autour de 10-12% dans les années 80-90. Et malgré cela, il était déjà au centre des débats. Je pense que l'une des explications, c'est de considérer que dans une 5e République qui est vraiment pensée pour organiser la confrontation entre deux camps structurés, alliés, et où finalement on a un mouvement assez mécanique, un camp est au pouvoir et puis l'autre, le fait d'avoir une force qui est durablement en dehors de ce système d'alliance perturbe beaucoup à la fois les acteurs politiques, parce que ça rend leur jeu beaucoup plus complexe et parfois assez imprévisible, on y reviendra peut-être, et ça perturbe également les électeurs, évidemment. Donc je pense que c'est l'un des éléments, et le deuxième, c'est sans doute que le fait que le Front National se réclame d'une position anti-système, tout en étant en réalité dans le système, crée une espèce de fascination, répulsion pour les journalistes, pour les acteurs politiques et puis pour les citoyens que nous sommes.
Michel Guéraud.
La primaire donc des Républicains bat son plein, et peut-être un mot sur cette stratégie de Nicolas Sarkozy qui lui a réussi lors de la dernière présidentielle, enfin en tout cas lors de son élection et pas lors de sa tentative d'être réélu. Une stratégie finalement de radicalisation du discours de Républicain. Quelle est votre analyse justement de cette stratégie d'une partie de la droite et de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire on va essayer de récupérer le vote FN en reprenant à notre compte une partie des valeurs et du discours du Front National. Est-ce que ça fonctionne ?
Ce qui avait très bien marché en 2007, comme disait Michel.
Oui, alors effectivement, on a beaucoup fait l'analyse, et bon, y compris en 2007, de se dire que Nicolas Sarkozy avait gagné parce qu'au fond, il avait élargi son espace politique à droite en mangeant sur les plates-bandes du Front National. Je pense que les choses, en réalité, étaient un tout petit peu plus complexes pour au moins deux raisons. La première, c'est que pour des raisons circonstancielles, le Front National était très affaibli à ce moment-là, à la fois du fait du délitement partisan qui est le contre-coup lointain en fait de la scission de 98, qui n'a jamais véritablement au sein du Front National, en tout cas jusqu'à cette époque-là, trouvé de solution, je dirais. Le vieillissement de Jean-Marie Le Pen lui-même, des hésitations stratégiques très fortes à la suite de l'échec qu'a constitué pour le Front National 2002. Hein, nous, on le voit souvent comme un succès pour le Front National, mais en réalité, du point de vue du FN, c'est un échec parce que ils ne parviennent pas à élargir leur électorat au-delà de leur socle de premier tour. Et le fait
2002,
que,
c'est Jean-Marie Le Pen au
second
tour.
Au second tour, et le fait que Jean-Marie Le Pen n'aille pas au second tour au-delà de son électorat de premier tour a été vraiment vécu comme un échec très grave. Et donc, en 2007, il est dans une hésitation stratégique. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la dédiabolisation est engagé dès 2003-2004. À l'époque, on dit du Le Pen light, du Le Pen soft, etc. Mais c'est déjà ça. D'ailleurs, vous rappelez peut-être qu'en 2004, pour les régionales, quand Jean-Marie Le Pen était candidat en région PACA, il pensait emporter la région sur cette ligne-là, justement. Et donc ça, c'est un premier élément. Je pense qu'il y avait une faiblesse du FN en 2007 qui était liée à cette série d'éléments. Et le deuxième élément, c'est que Nicolas Sarkozy ne s'est pas contenté en 2007 de faire un pas vers la droite. Si vous vous rappelez de sa campagne, si vous vous rappelez des propositions qu'il a portées, des personnalités qu'il entourait, il a fait une véritable triangulation. À la fois, il a fait un pas vers la droite, effectivement, sur les thématiques identitaires, disons, proposition d'un ministère de l'identité, de l'immigration, etc. Mais en même temps, il a aussi fait un pas vers la gauche. Il a mis en avant des personnalités comme Rachida Dati, comme Ramayad, etc., ce qui à l'époque, il y en avait assez peu en fait de personnalités issues de l'immigration qui étaient aussi visibles politiquement. Il y portait la proposition de supprimer la double peine, par exemple, ce qu'il a effectivement fait. Et surtout, au-delà du discours identitaire, il y avait un discours positif au plan social qui reposait sur le travailler plus pour gagner plus. Et donc, il ne se contentait pas de se déplacer vers la droite. Il faisait une véritable triangulation qui lui a permis effectivement à un moment donné, d'une part, de récupérer la fraction la plus petite bourgeoise de l'électorat Front National antérieur, et d'autre part, de manger une partie, mais une partie seulement, de la fraction ouvrière de l'électorat frontiste. Quand on regarde en détail, en 2007, on s'aperçoit que c'est chez les ouvriers qu'on a été le plus fidèle, malgré tout, au Front National.
Alors, on va revenir sur tout ça, on va détailler dans l'émission. Je m'arrête encore sur cette histoire de radicalisation du discours à droite. Hein, et je ne risque pas à citer une nouvelle fois un homme qui nous est cher, Christian Estrosi. Contrairement, alors Nicolas Sarkozy est mon ami, je le respecte, mais contrairement à lui, je ne pense pas que nous, élus républicains, devions tenir un discours toujours plus à droite. Plus on va à droite, plus on fait monter le FN. C'était Estrosi en décembre.
Aujourd'hui, je vous rappelle régional, qu'il est... Hein, c'était lors des régionales.
Voilà, lors des régionales. Aujourd'hui, il est rallié à Sarkozy, il fait sa campagne sur la ligne, donc sur cette ligne-là, hein, précisément. Il n'y a pas de leçon. Alors, on rappelait tout à l'heure, vous êtes vauclusien, vous avez analysé aussi ce qui s'est passé dans le Vaucluse, je pense à Thierry Mariani, la droite populaire. des candidats de la droite populaire, et aujourd'hui ils ont disparu. Là, la droite a quasiment disparu dans le Vaucluse au profit du Front National et de l'extrême droite.
Tout à fait. Oui, il y a un véritable paradoxe dans cette aile droite de l'UMP, souvent issue du RPR, qui a été la droite populaire et leurs sympathisants ou leurs proches, disons. C'est que pendant longtemps, ils ont effectivement fait l'analyse de dire si le FN gagne du terrain, c'est parce qu'on n'est pas assez à droite et donc il faut aller plus à droite. Ça a été vraiment la ligne portée par Mariani, par des gens comme ça, pendant tout le...
Valérie Boyer sur Marseille.
Par Valérie Boyer à Marseille.
Ce qu'on appelait la droite décomplexée.
Par Marie Zouassin, Aix-en-Provence, etc. Pendant tout le premier... pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, une partie de la droite a porté cette ligne-là. Ce qui s'est passé en 2012, c'est que quand on regarde ce qui est arrivé électoralement aux candidats issus de la droite populaire, enfin aux députés sortants issus de la droite populaire, on constate que proportionnellement, ils ont fait moins bien que les autres candidats UMP, si on rapporte leur score aux législatives au score de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'en fait, leur positionnement politique... localement leur a nui plutôt qu'il ne les a aidés. Et certains ont su, au lendemain des législatives, tirer les leçons de cet échec-là. Y compris Mariani lui-même, d'ailleurs. Il a donné une série d'interviews quelques mois après les législatives où il dresse un constat assez lucide sur l'échec de la droite populaire et dit « Bon ben voilà, on s'est planté, en fait aller plus à droite, ça ne marche pas, etc. » Et d'ailleurs, lui-même en a tiré les conséquences pour lui-même puisqu'il est allé se faire élire chez les Français de l'étranger en voyant bien que sa circonscription était perdue. Quelqu'un comme Christian Boucher, par exemple, qui est député maire de Cavaillon, a tiré le même constat et pour les municipales de 2014 a mené une campagne beaucoup plus centriste qu'il ne l'avait fait précédemment. En ce qui concerne Christian Estrosi, je pense qu'il a eu une épiphanie entre les deux tours de l'élection régionale. Il semblerait effectivement que cette épiphanie n'ait pas duré longtemps. Alors je ne sais pas si c'est un retour à l'habitus, comme disaient les sociologues, c'est-à-dire une espèce de naturel qui revient au galop. Bon, il faut voir que chez Christian Estrosi, ça s'inscrit dans une trajectoire politique qui est longue, qui est ancienne, qui vient du médecinisme à Nice, qui passe par 1998 où Estrosi est la cheville ouvrière de l'alliance, enfin en tout cas de ceux qui souhaitent l'alliance entre le Front National et la droite pour diriger le Conseil Régional. Donc ça vient pas de nulle part et je pense qu'il était difficile pour lui de changer significativement de positionnement politique.
Est-ce qu'on peut dire que finalement cette porosité des idées poussée à l'extrême amène à la fusion des électeurs et que finalement un électeur de droite devient automatiquement un électeur du Front National ou quasiment un électeur du Front National?
Alors, cette question de la porosité, de la fusion, elle est complexe pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut penser l'espace politique non pas de manière unidimensionnelle sur un axe gauche-droite, mais de manière au moins bidimensionnelle sur au moins deux dimensions qui sont aujourd'hui déterminantes pour le positionnement des électeurs, qui sont d'une part un axe assez classique de libéralisme économique, on va dire, on est plus ou moins libéral ou antilibéral économiquement, qui est historiquement la structuration principale de l'axe gauche-droite en France, mais aussi un deuxième axe qui est un axe, on va dire, d'autoritarisme, de libéralisme culturel, on peut appeler ça comme on veut, et qui est à peu près orthogonal au premier. Et donc c'est sur ces deux dimensions-là qu'il faut penser les rapports entre les électorats du Front National et de la droite traditionnelle. Or, quand on regarde sur ces deux axes-là, on s'aperçoit que sur les questions d'autoritarisme, de libéralisme culturel, etc., il y a une différence de degré plutôt que de nature entre les électorats du FN et la droite classique. Par contre, sur l'axe de libéralisme économique, c'est plus compliqué. La droite traditionnelle est... dans sa très très grande majorité, très libérale économiquement. C'est beaucoup moins clair pour l'électorat du Front National qui aujourd'hui, pour une majorité d'entre lui, est plutôt anti-libéral économiquement. Donc la césure, elle est là. La deuxième raison pour laquelle cette histoire-là est compliquée, c'est que moi, j'ai coutume de dire qu'il y a aujourd'hui entre la droite et l'extrême droite un seul bloc, mais qui est fait d'un système de porosité asymétrique. C'est-à-dire que les électeurs du FN n'auront jamais d'hésitation à aller voter pour un candidat de droite lorsqu'il s'agit de battre la gauche.
On reviendra sur la problématique des triangulaires, voilà. Le barrage, est-ce que c'est encore efficace ou pas?
Et donc, quand on a un second tour gauche-droite, les électeurs du FN votent à 50, 60, voire 70% pour le candidat de droite. En revanche, lorsqu'on a un second tour qui oppose la gauche contre le Front National, les électeurs de droite votent à peu près alors ça dépend évidemment des situations et des endroits, hein, mais votent à peu près à 30% pour le candidat de droite. Et dans des proportions à peu près équivalentes pour le candidat de gauche, voire supérieur. Ce qui explique la raison pour laquelle le Front National aujourd'hui parvient très peu à emporter des second tours. En fait, c'est à cause de cette structure asymétrique qui fait que, on l'a vu au départemental et on l'a vu au régional, à la fin, quoi qu'il arrive, c'est la droite qui gagne.
Alors, cette inflation qu'on a dans les propositions pour revenir aux primaires, on a vraiment des propositions assez fortes. On est clairement sur le terrain du Front National. Finalement, c'est voué à l'échec. Nicolas Sarkozy n'attirera pas davantage d'électeurs du Front National, ne ramènera pas à droite les électeurs du Front National.
Alors je pense qu'il faut déjà prendre en compte le fait qu'on est dans une phase de primaire. On n'est pas encore dans l'élection générale. Et donc là, pour Nicolas Sarkozy en particulier, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de mobiliser le noyau dur de l'électorat de la droite.
Pour les auditeurs, ça veut dire qu'on va faire les primaires à l'extrême et finalement après gouverner avec des thèmes traditionnels.
Moi je pense qu'effectivement, quel que soit le vainqueur de la primaire, à supposer que les autres candidats acceptent le résultat de la primaire, ce qui est encore une autre affaire. Mais si on part sur cette idée-là, je pense que quel que soit le candidat de la primaire, il sera forcément amené à recentrer son discours au lendemain de la primaire, parce qu'ensuite il faudra rassembler son camp, il faut élargir son électorat vers le centre, et donc ce sera une autre phase. Mais là, clairement, Sarkozy en particulier, mais aussi les autres candidats de la primaire, vont aller chercher avec les dents l'électeur de droite le plus ferme dans ses convictions, je dirais. Et donc, ça implique effectivement un déplacement vers la droite.
Michel ?
Vous... Non, je ne suis pas prêt.
Donc, on continue. Vous avez évoqué tout à l'heure, je l'ai dit en présentation, vous êtes spécialiste de l'électorat du Front National. Aujourd'hui, on a vu aux dernières régionales qu'il semblait se dessiner deux électeurs du Front National. Un du Nord, en tout cas deux Front National. Un Front National du Nord, qui était avec Marine Le Pen, qui était beaucoup plus populaire, plus ouvrier. Et un Front National du Sud, ici, en l'occurrence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un Front Populaire plus classique, c'est-à-dire des petits patrons.
Front National, pardon.
Petits patrons, des personnes âgées, etc. Est-ce que cette différence existe réellement?
Alors,
ou est-ce qu'elle est conjoncturelle selon les élections? Parce qu'après tout, on dit qu'à chaque élection, sa vérité.
Non, mais il y a des différences. Évidemment, le Front National, ni du point de vue du parti, ni du point de vue de son électorat, n'est parfaitement homogène. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que l'évolution du discours qu'il y a eu ces dernières années, qui a consisté à passer du discours sur un électeur Front National à deux électeurs Front National, a plutôt conduit à affiner les choses, même si je pense que ça reste parfois un peu stéréotypé, que les choses sont sans doute un peu plus complexes que ça, ne serait-ce que parce que on oublie souvent dans ce discours-là que les territoires du sud méditerranéen sont, pour certains d'entre eux, des territoires très pauvres. Le Vaucluse, par exemple, est le 4e département le plus pauvre de France. Vous prenez des départements comme les Pyrénées-Orientales, etc. On est dans des départements qui ne sont pas du tout des départements bourgeois. Donc les Alpes-Maritimes ne sont pas forcément tout le sud. La deuxième chose, c'est que dans ces départements-là, on s'aperçoit que les ouvriers votent au moins autant pour le Front National que dans des départements comme le Pas-de-Calais, par exemple. La différence, c'est que dans le Pas-de-Calais, il y a plus d'ouvriers. Donc les différences, elles sont peut-être dans la manière dont est constitué l'électorat, mais pas forcément dans la pénétration dans les différents groupes sociaux. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que comme le Front National a lui-même une perception de ces différences de constitution de son électorat, en tout cas de ce qu'il en imagine, il ajuste sa stratégie. Et puis il ajuste aussi sa stratégie à la situation politique. Et donc lorsque Marine Le Pen arrive dans le Nord-Pas-de-Calais, une première fois en 98, mais surtout après au milieu des années 2000, D'abord, le FN est à l'époque beaucoup moins fort qu'il ne l'est aujourd'hui. La gauche y est politiquement hégémonique. Et donc, son souci, c'est de se constituer un socle électoral autonome en faisant, pour le coup, une forme de triangulation politique avec un discours économiquement et socialement, disons, au moins audible par des électeurs qui ont une culture de gauche, et en même temps un discours qui, sur le plan identitaire, sur le plan de l'immigration, etc., est extrêmement dur. Marion Maréchal Le Pen, quand elle arrive dans le Vaucluse en 2012, elle est dans une situation tout à fait différente. Le Vaucluse est déjà, et en particulier la circonscription dans laquelle elle arrive, est déjà très largement acquis aux thèses de l'extrême droite. Les droites y sont politiquement et culturellement hégémoniques. La gauche y est en voie de disparition. Et donc son souci, c'est pas du tout pareil. Son souci, c'est de se dire, bon, on va bâtir sur cette situation-là pour faire du Front National la force centrale des droites dans le Vaucluse. Quelque chose que Bompard avait déjà essayé avant elle d'ailleurs de faire, de réorganiser les droites autour de lui. Donc on a des situations stratégiques différentes. Maintenant, je crois que ce qu'il ne faut jamais oublier derrière tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui fait profondément l'unité du parti et de l'électorat du Front National, c'est qu'ils pensent tous que le thème le plus important, c'est l'immigration. Et sur l'immigration, ils ont tous les mêmes positions. C'est ça qui permet aujourd'hui au parti de tenir. En plus, le parti n'est pas confronté à l'exercice du pouvoir, donc les contradictions internes n'éclatent pas. Et je dirais les différences en termes de politique économique, par exemple, sont relativement secondaires parce que l'importance qui est attachée à ces questions-là par les électeurs est relativement secondaire.
Donc c'est du marketing, on va dire.
C'est de la politique. Ils font de la politique.
Michel ?
Donc c'est ce que vous dites ça très clairement parce que ça remet encore un certain nombre d'analyses, y compris dans les médias, sur le match entre, on va prendre les Philippot, qui serait à l'aile gauche du Front National avec un passé... supposément chevènementiste, et Marion Maréchal Le Pen qui incarnerait finalement la continuité par rapport à l'héritage celui de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire le Reagan à la française, le libéralisme débridé. Mm. Cette opposition, elle existe, mais elle n'est pas déterminante, hein, c'est ce que vous dites.
Oui, bien sûr.
Il y a une contradiction quand même, elle existe, il y a des tensions dans le
Front National. Bien sûr, il y a des tensions dans le Front National, comme il y en a dans tous les partis d'ailleurs. Ça, c'est évident, il serait absurde de le nier. Ce que je dis, c'est que les choses sont, à mon avis, parfois un peu plus subtiles ou complexes qu'on ne veut bien le dire. D'abord, ces structures d'opposition, elles ne sont pas forcément... En tout cas, en l'état actuel des choses, un problème. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces différentes offres électorales, ces différentes offres politiques au sein même du Front National est plutôt un atout pour le Front National aujourd'hui. Ça permet de ratisser plus large. Et on voit bien que ces contradictions-là, elles n'explosent le cas échéant que dans l'exercice du pouvoir. La deuxième chose, c'est quand on dit Philippot, c'est la rupture et Marion Maréchal Le Pen, c'est la continuité, on peut en discuter parce que le tournant social du Front National, il se fait dès le début des années 90. Pourquoi ? Parce qu'on sort de la guerre froide. Et la position extrêmement libérale économiquement de Le Pen dans les années 80 tenait avant tout à un positionnement de guerre froide, un positionnement anticommuniste. La référence à Reagan, c'est très clairement une référence avant tout de guerre froide. Dès lors qu'on sort de la guerre froide, les alliances géopolitiques changent. Rappelez-vous quand Jean-Marie Le Pen s'oppose à la guerre en Irak, à la première guerre en Irak en 91. Les positionnements économiques changent. Dès 92, maigré un tournant social dans le discours économique et social du Front National. Donc ce que dit aujourd'hui Philippot, ça ne sort pas de nulle part. Et à l'inverse, dire que Marion Maréchal Le Pen, c'est la continuité, il y a une part de vérité, mais il y a aussi, à mon avis, ça cache aussi quelque chose qui est qu'elle est profondément innovante. Elle a apporté quelque chose de profondément innovant au Front National, qui est la fusion entre deux courants politiques et idéologiques anciens de l'extrême droite, qui sont d'une part le courant, national-catholique, des cathos tradis, si on veut aller très vite, dont elle-même est plutôt issue par sa socialisation familiale. Elle a été à l'école chez les bonnes sœurs, plutôt tradis, etc. Et puis je pense qu'elle a une véritable foi catholique. Et elle fait fusionner ça avec un courant qui historiquement est tout à fait contradictoire au sein de l'extrême droite, qui est le courant identitaire, plutôt issu des milieux païens, pan-européens, racialiste au sens où on défend l'Europe blanche, etc. Ces deux courants-là, jusqu'au début des années 2000, sont très fortement opposés. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est plutôt le courant païen qu'il avait emporté au sein du Front National que les cathos tradis, les nationaux catholiques s'en vont au début des années 2000 du Front National. À peu près tout le monde s'en va, en fait, au début des années 2000 du Front National. Donc il n'y a plus vraiment de structure idéologique. Et Marion Maréchal Le Pen, elle opère la fusion entre ces deux traditions-là. Et ça donne quelque chose de très fort qui est ce que j'appelle le catholicisme identitaire. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la manière dont au Front National, mais aussi plus largement dans une partie de la droite, on mobilise la référence catholique, n'est plus en référence à une organisation, l'Église catholique, c'est des gens qui sont souvent assez distants de l'Église catholique, n'est plus en référence à un corps de doctrine, les évangiles, mais est bien en référence à une identité. On est français parce qu'on est catholique, on est catholique parce qu'on est français, sous-entendu parce qu'on n'est pas musulman.
Michel.
Je reviens sur l'électorat du Front National en PACA, c'est votre matière. Alors évidemment, Nice n'est pas Avignon, Fréjus n'est pas Marseille. Malgré les nuances que vous apportez, l'électorat, c'est un électorat de droite assez classique. Ce sont des, c'est le cœur de cible de, correspond au positionnement de Marion Maréchal Le Pen.
J'ai envie de vous dire, quand dans un département comme le Vaucluse, vous arrivez à dépasser les 50% au second tour, on a forcément un électorat qui est très composite et qui dépasse un portrait robot très typifié. Il est vrai que aujourd'hui dans la région PACA, particulièrement dans des départements comme le Vaucluse, le Front National parvient à conserver son socle dans les classes populaires, on va dire, les ouvriers, les employés, alors dans un cas comme le Vaucluse, par exemple, des classes populaires très très éclatées, très peu syndiquées, très peu politisées, très peu organisées, parce qu'on est sur des services, on est sur la logistique, on est sur la grande distribution, etc. C'est aussi la structure économique qui veut ça. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est que parmi les cadres supérieurs, par exemple, quand on regarde au plan national, bon, grosso modo, les cadres supérieurs votent peu pour le Front National, mais en PACA, ils votent beaucoup plus qu'en moyenne nationale pour le Front National. Donc le mouvement ascendant du Front National touche quasiment tout le monde, quasiment tous les groupes sociaux, et déforme au final assez peu la structure sociale de cet électorat.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi sur Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Joël Gombin pour son livre « Le Front National va-t-elle diviser la France » aux éditions Erol. Joël Gombin, la carte électorale du Front National, elle est toujours valable? Chômage, immigration, délinquance, donc à l'arrivée, vote élevé du Front National? Ou c'est plus complexe que ça?
Alors, quand on regarde de très haut, si on regarde la France depuis un satellite, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette structure-là, qui correspond à la France de la Révolution industrielle, grosso modo, correspond toujours à la carte du Front National. Maintenant, quand on affine un peu le regard, qu'on n'est plus dans un satellite, mais qu'on est dans un avion, on s'aperçoit que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que il y a des cas qui échappent à ça. Typiquement, l'Île-de-France, aujourd'hui, est un cas qui échappe assez largement à ça. Le vote FN est globalement doit être le plus faible dans la région Île-de-France de toute la France, alors même qu'on voit bien que c'est une région évidemment urbanisée, avec beaucoup d'immigration, beaucoup de délinquance, etc. Deuxièmement, si la structure de la carte électorale du FN a assez peu changé au niveau régional, par contre, à l'intérieur des régions, elle a beaucoup changé. On le voit par exemple en PACA, où historiquement le vote FN était vraiment un vote du littoral, et où progressivement ce vote a remonté dans les terres, à tel point qu'aujourd'hui le maximum du vote FN est atteint à plutôt 30-40 km derrière le littoral, voire au-delà dans le Vaucluse, quand on remonte le sillon rhodanien. Donc il y a une macro-géographie qui est assez constante, et une micro-géographie qui a beaucoup bougé, donc c'est pas évident d'appréhender ces évolutions.
Comment on explique? Il y a un nouveau facteur, l'appréhension est devenue un nouveau facteur de l'équation ou...
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que la géographie sociale de la France a changé pendant ce temps-là aussi. Si on la compare aux années 80, c'est ce que raconte Christophe Guy, par exemple. Je suis pas d'accord avec tout.
Oui, alors vous dites l'opposition France urbaine et France périphérique, ça...
Voilà, ça a ses limites.
C'est pas forcément le schéma qui explique tout.
Voilà, ça a ses limites, mais par contre, il a raison quand il dit que la mondialisation et sa traduction géographique en France, qui est la métropolisation, a changé la géographie sociale de la France. Et il est clair qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des mouvements de reflux des couches supérieures des classes populaires et des classes moyennes de plus en plus loin des centres. Alors après, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que par contre les couches inférieures des classes populaires ont tendance à rester dans les centres, et particulièrement sur le littoral méditerranéen. À Marseille, on le voit très bien, on est ici à la Belle de Mai, l'un des quartiers les plus populaires, les plus pauvres d'Europe, et on est en plein centre-ville, en tout cas d'un point de vue géographique. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'évolution de la géographie sociale. La deuxième chose, c'est l'évolution de la sociologie du Front National pendant ce même temps, qui a continué à se prolétariser, on va dire, hein, dont la composante populaire a continué de croître. Et donc c'est un peu la combinaison de ces deux éléments, liée au fait également que le Front National a de plus en plus cherché à devenir le porte-parole des fractions de la société qui se sentent les plus laissées sur le bord de la route, on va dire, du développement économique, des grandes évolutions sociales, etc., qui fait que ça a aussi sans doute de plus en plus parlé à des territoires périphériques, au sens où ils sont loin des grandes métropoles, ils sont loin des grands équipements, souvent sur les grands axes de communication, mais pas sur les nœuds les plus centraux, etc. Voilà. Mais on a encore beaucoup de recherches à faire, je dirais, dans cette direction-là pour parfaitement comprendre ce qui s'est passé.
La dédiabolisation, c'est un mot qui revient souvent, qui est revenu souvent, c'est quelque chose qui existe réellement, ça a été inventé, ou le fait de parler du Front National arrive à banaliser l'entité politique et les idées.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dédiabolisation, c'est, d'après moi, à la fois un storytelling et une stratégie impulsée par le Front National. Alors, dans la période la plus récente, impulsée par Marine Le Pen, depuis, disons, le début ou le milieu des années 2000, hein, bien avant, en réalité, qu'elle devienne présidente, hein, ça commence au moins dès 2002, qui consiste à dire qu'on s'est dédiabolisé. Donc il y a un côté presque très méta dans la dédiabolisation.
Le fait qu'elle ait renoncé, enfin qu'elle ait dit qu'elle n'était pas antisémite, ça joue, ça fait partie de la
dédiabolisation. Oui, c'est une dimension, je pense, centrale. D'ailleurs, Louis Alliot l'a dit très très explicitement. Il a dit un jour, là, il faut bien comprendre que la dédiabolisation, ça ne touche que l'antisémitisme. On peut continuer à raconter ce qu'on veut sur les autres groupes sociaux, mais l'antisémitisme, il y a un côté où ça ne passe pas dans la société française, et donc il faut que là-dessus on soit impeccable. Donc clairement, c'est le marqueur le plus central, et on voit bien que Marine Le Pen, de ce point de vue-là, a effectivement enfoncé des coins par rapport à son père et a pris des positions assez nettes sur le sujet, tandis que sur d'autres sujets, sur le rapport à l'islam par exemple, on voit bien qu'elle ne se désolidarise pas du tout de son père, voire même parfois qu'elle a un rapport beaucoup plus distant à l'islam, parce que quand on regarde ce que Jean-Marie Le Pen a pu dire au fil de l'histoire sur l'islam, il n'a pas toujours eu un rapport très antagoniste à l'islam. En particulier parce que comme il était un partisan de l'Algérie française, en fait après 58, il y a eu tout un courant de l'Algérie française qui est devenu assimilationniste en disant mais au fond le seul moyen de garder l'Algérie française c'est de faire des Algériens des Français et d'accepter qu'ils le soient en étant musulmans. Et donc il y a un rapport dans cette génération-là plus complexe à l'islam que dans la jeune génération, je dirais à l'extrême droite, qui est dans un rapport très... à la fois très simple et très antagoniste à l'islam, quoi.
Et vous dites alors, attention, à propos de la dédiabolisation, celui qui le dit le plus n'est pas forcément celui qui est au sein du Front National, c'est-à-dire que...
Mais
il y a un jeu de rôle un petit peu, finalement, il y a quelque chose d'assez homogène derrière la façade des prises de position des uns et des autres.
Mais c'est surtout qu'il faut bien comprendre que la dédiabolisation, c'est une stratégie et c'est pas une ligne idéologique. Ce que ça veut dire, c'est que... On peut être pour ou contre la dédiabolisation indépendamment, je dirais, de ses positions idéologiques, plus ou moins radicales ou plus ou moins ce qu'on veut, et que c'est avant tout un rapport au pouvoir. Être pour la dédiabolisation, c'est être pour faire tout ce qui est nécessaire pour que le Front National puisse parvenir au pouvoir. Et donc s'il faut polir les angles, s'il faut se détacher des éléments les plus remuants, etc., si ça permet d'accéder au pouvoir, ok. Mais historiquement, parce qu'en fait toute l'histoire du Front National est une histoire de dédiabolisation successive, dès la création en 1972 par des néofascistes, mais historiquement ceux qui ont porté les stratégies de dédiabolisation étaient souvent issus des milieux les plus radicaux en fait au plan idéologique, mais aussi les plus déterminés au plan politique à être dans une logique d'efficacité.
Michel.
Le Front National de la France apaisée, c'est l'affiche de Marine Le Pen. C'est sous ce slogan qu'elle lance sa campagne pour la présidentielle à Fréjus en septembre. Pour vous, d'un point de vue scientifique y compris, hein, relève toujours du champ de l'extrême droite ou c'est plus compliqué que ça?
C'est une bonne question. Je pense que c'est surtout un coup de génie de Marine Le Pen ou de la personne qui a imaginé cette affiche de considérer que l'état du débat politique en France aujourd'hui est devenu tellement hystérisé que sans bouger de ses positions, le Front National peut essayer d'apparaître comme le parti apaisé, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'elle fait le pari et on l'a vu déjà à plusieurs reprises, au moins depuis la séquence des attentats, je dirais. Elle fait le pari que les autres partis politiques sont tellement dans la surenchère que le Front National n'a pas besoin de bouger, il reste sur ses positions et que ça leur donne une forme de sagesse. On l'a vu à plusieurs reprises sur la déchéance de nationalité où le FN disait bah, « attendez, c'est pas la peine d'en faire tant que ça ». Sur un certain nombre de questions de liberté publique où le FN disait « attention, il faut respecter les libertés publiques ». Sur la question du Burkini encore récemment où Louis Alliot se paye le luxe de dire « ça suffit le débat sur le Burkini, parlons des vrais sujets, le chômage et l'économie ». Donc on voit bien que Marine Le Pen essaie par là de se présidentialiser, de se hisser au-dessus de la mêlée, ce qui est une dimension qui lui manque un petit peu pour l'instant quand on regarde les enquêtes d'opinion.
Autre chose qui lui manque, en tout cas qui manque au Front National, ce sont les alliances et notamment l'ouverture. Pour l'instant, les alliances explicites avec le Front National demeurent plutôt coûteuses politiquement. Ça a commencé en 2014 avec une tentative de charte, ça n'a pas connu un franc succès.
Oui, c'était assez... En fait, ça n'a pas commencé en 2014. C'est une histoire récurrente dans l'histoire du Front National où régulièrement le Front National tend la main à la droite traditionnelle avec plus ou moins de succès. En fait, je pense que le rapport de force aujourd'hui entre la droite traditionnelle et le Front National rend très compliqué des alliances explicites autres que, disons, très localisées parce qu'aujourd'hui, une bonne partie des dirigeants de la droite est tout à fait consciente que s'ils rentrent dans un système d'alliance avec le FN, ils se font bouffer tout cru. Et par ailleurs, le contexte aujourd'hui, dans lequel il est très probable que le deuxième tour de l'élection présidentielle voit s'affronter un candidat issu des Républicains à Marine Le Pen, fait que l'alliance est impossible, puisque au second tour, on va s'affronter à eux. Et donc je ne crois pas à des alliances généralisées à court terme, ni même probablement à moyen terme. Elles arriveront sans doute, ou sous une forme ou sous une autre, si le Front National parvient à établir de manière définitive son hégémonie sur la droite. Typiquement, si par exemple le Front National était opposé à un candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle, là, il serait en position de contraindre au moins une partie de la droite à venir sous son nom.
Pour l'instant, cette modération affichée, en tout cas de Marine Le Pen et du Front National, ça fait du Front National un parti de droite comme les autres partis, l'UDI, le MoDem quasiment comme les autres partis, en tout cas.
Moi je ne le pense pas, pour plusieurs raisons. D'abord, on ne s'affranchit jamais complètement de son histoire. Deuxièmement, il y a une série de différences programmatiques aujourd'hui qui demeurent entre le Front National et les autres partis, typiquement sur la préférence nationale, par exemple. Pour l'instant, aucun candidat à la primaire de droite n'a osé proposer une préférence nationale généralisée, je dirais, même si elle peut être sectorielle. La peine de mort, là encore, aucun grand candidat à la primaire de droite n'a osé proposer le rétablissement de la peine de mort. Je dis pas que ça n'y arrivera pas, mais enfin, pour l'instant, on n'y est pas. Donc il y a une série de différences programmatiques. Il y a une inscription du Front National dans ce que j'appellerais le champ de l'extrême droite. C'est-à-dire que le Front National est en interaction, se positionne par rapport à un certain nombre d'autres acteurs qui eux-mêmes appartiennent au champ de l'extrême droite. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'en est pas sorti. Et puis surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'extériorité au champ politique, l'extériorité au mainstream politique est pour le Front National une ressource. Et donc, se banaliser complètement pour le Front National reviendrait vraisemblablement à disparaître, ou en tout cas à perdre beaucoup d'influence. Ça a été le cas en Italie, par exemple, de Alleanza Nazionale, qui était issu du mouvement néofasciste MSI, Movimento Sociale Italiano, qui, lorsqu'il a fait le choix de devenir parfaitement banalisé, parfaitement mainstream, a peu à peu perdu toute son importance politique.
Michel ?
Vous soulignez des constances et des changements. Et parmi les changements, il y en a un qui n'est pas trop commenté dans la génération Marine Le Pen. C'est que vous dites que la génération Jean-Marie Le Pen vivait pour la politique et pas par la politique, alors que la génération Marine Le Pen vit par la politique. Est-ce que c'est possible d'expliquer rapidement ce que ça veut dire et les enjeux que ça a concrètement
oui.
En PACA, par exemple?
Alors ça renvoie à une vieille distinction établie par le sociologue allemand Max Weber, qui distinguait effectivement vivre pour la politique de vivre de la politique. Vivre pour la politique, ça veut dire que la politique est une forme de passion à laquelle on est prêt à tout sacrifier, mais qu'on dispose des moyens économiques, par ailleurs, d'entretenir cette passion. Alors ça renvoie à un rapport assez aristocratique, au fond, à la politique et à un état, je dirais, sensitaire du champ politique où, voilà, pour s'engager en politique, il fallait être riche, etc. vivre de la politique, ça veut dire concrètement tirer ses moyens de subsistance économique d'une activité politique qui renvoie beaucoup plus à l'ère démocratique. Or, quand on regarde le profil sociologique effectivement de la génération des dirigeants du Front National de Jean-Marie Le Pen, c'est tous des gens qui avaient un autre métier ou une fortune personnelle qui leur permettait de maintenir leur activité politique. Et typiquement, Jean-Marie Le Pen, par exemple, le fait qu'il ait eu l'héritage Lambert a été un moment déterminant dans sa carrière politique parce que ça l'a mis à l'abri du besoin économiquement pour toute sa vie. Et donc, il a pu faire la politique sans aucune contrainte de gagner ou de perdre des élections. Il pouvait perdre toutes les élections, il s'en fichait, il avait plein d'argent. En plus, il avait mis en place tout un système économique qui faisait que c'est lui qui concentrait tout l'argent.
On en parlera peut-être, oui, voilà. De l'argent et du Front National.
Voilà. Alors que la génération de Marine Le Pen, et c'est bien une question générationnelle de mon point de vue, ce sont tous des gens qui ont l'ambition de vivre de la politique. L'ambition est souvent la nécessité de vivre de la politique. Et on le voit bien aujourd'hui, tous les dirigeants du Front National aujourd'hui sont élus au Parlement européen ou collaborateurs d'élus, etc. Et donc on rentre dans un fonctionnement qui est tout à fait comparable à celui des autres grands partis politiques où on a des professionnels de la politique qui habitent le parti. Et quand on est professionnel de la politique, on a une nécessité, c'est de pouvoir garantir sa subsistance économique et donc gagner. Surtout dans un système politique français dans lequel l'argent vient lorsqu'on gagne des élections et qu'on occupe des positions électives, notamment législatives. Et donc les prochaines législatives vont être de ce point de vue-là déterminantes. Et moi je fais le pari que si le FN ne parvient pas à obtenir 25, 30, 35 députés comme on l'a dit en premier aujourd'hui, ça va tanguer assez sérieusement au sein du parti.
Il y a un processus de notabilisation lié à cette soif, cette envie d'avoir des postes et de vivre de la politique, mais qui est quand même douloureux et compliqué. Si on prend la PACA, on prend par exemple les deux sénateurs maires de la région, il y en a un où c'est, alors c'était un problème de génération, Stéphane Ravier, c'est folklorique, ça, il y a beaucoup d'éclats, de divisions, de conflits dans sa mairie. Il y a une difficulté à intégrer, semble-t-il, le jeu politique. Et puis, du côté de Fréjus, c'est peut-être plus apaisé, plus on a un notable en puissance là.
Oui, je sais pas, je saurais pas dire jusqu'à quel point effectivement on a cette opposition là. Il y a évidemment des questions de personnalité aussi qui rentrent en ligne de compte. Après, il est clair que l'ancienneté dans le parti de Stéphane Ravier n'est pas la même que celle de Rachine. Rachine est vraiment l'archétype du mariniste, je dirais, non pas sur un plan idéologique, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est quelqu'un qui, au plan idéologique, a des idées assez arrêtées, je dirais, et assez dures, mais au plan justement de la stratégie politique et du rapport à l'exercice du pouvoir politique et à qu'est-ce qu'on est prêt à y sacrifier. De ce point de vue-là, il est tout à fait représentatif. Après, bien sûr, le basculement d'un parti fondé sur un rapport aristocratique à la politique à un parti de professionnel de la politique n'est pas quelque chose qui se fait sans douleur. Et je pense que c'est aussi l'une des clés de compréhension de la crise politico-familiale qu'on a connue au Front National entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Au-delà, quand on voit qui a soutenu qui, etc., c'est aussi ce type de rapport à la politique qui est mis en évidence.
Alors, en PACA, à Marseille, à Vitrolles, on se souvient à propos de professionnalisation du parti Front National, du conflit lors de la scission avec les maigrettistes. On était en terre maigrettiste. Et vous soulignez que Marine Le Pen a remis beaucoup dans l'appareil FN. Ils sont de nouveau là, ils sont au poste clé. La victoire de Maigret sans Maigret aujourd'hui le FN?
Beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens le disent et le pensent. Il y a effectivement un certain nombre de continuités entre le projet maigrettiste et le projet mariniste, y compris des continuités humaines, parce qu'effectivement le Front National a pratiqué le pardon des offenses et un certain nombre de maigrettistes ont été réintégrés à des positions éminentes, et en particulier tous les secrétaires généraux successifs depuis que Marine Le Pen a été élue présidente du Front National sont des maigrettistes.
Parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils souffraient d'un manque de cadre.
Alors les maigrettistes avaient historiquement la réputation d'être des très bons organisateurs. Et clairement, après la scission, ça s'est beaucoup ressenti au Front National, la perte de cette compétence d'organisation, d'encadrement, de formation, etc. Je pense qu'il y a aussi des questions d'affinité personnelle. Alors, au moment de la scission, ça a été assez paradoxal parce que il y a eu à la fois la bande de Samuel Maréchal qui est restée très fidèle à Jean-Marie Le Pen, etc., mais avec une dimension générationnelle très très forte qui d'ailleurs a donné naissance à la création de l'association Génération Le Pen, justement, qui incarnait cette dimension générationnelle-là. Mais en même temps, clairement, dans la scission Maigretis, il y avait aussi une dimension générationnelle. Donc les choses se sont jouées entre les loyautés familiales, je dirais, et les loyautés politiques. Donc, il y a une logique à la réintégration de cadres maigretistes. Après, il nous faudra sans doute encore un petit peu de recul pour vérifier justement jusqu'à quel point va le parallèle avec l'histoire maigretiste. En particulier, la principale différence, c'est que Marine Le Pen dispose de la légitimité patronymique, dont n'a jamais disposé Bruno Maigret, même si on voit bien que cette légitimité a été remise en cause par la bagarre avec Jean-Marie Le Pen. Mais il reste qu'encore aujourd'hui, le marqueur du non-Le Pen reste extrêmement fort au sein du Front National.
On peut imaginer que plus le parti va se professionnaliser, plus le parti sera susceptible de se passer d'un dirigeant qui s'appelle Le Pen, de la famille Le Pen.
Théoriquement, oui. Pratiquement, j'en suis pas sûr. Parce que... Le rapport à la légitimité...
Parce que si elle perd, par exemple, en 2017, on peut imaginer qu'après, il y a une cascade d'échéances électorales où elle perd également.
Alors, clairement, si en 2017, les succès du Front National ne sont pas à la hauteur des espérances qui sont aujourd'hui, alors c'est pas gagné à la présidentielle. Plus personne au FN aujourd'hui n'espère gagner à la présidentielle en 2017, je pense. Mais c'est faire un bon score de second tour et c'est surtout gagner un nombre de circonscriptions significatives derrière. Bon, si ça n'arrive pas, si par exemple Marine Le Pen fait que 30% au second tour de l'élection présidentielle, qui gagne 5 à 10 circos, dans ce cas-là, il y aura effectivement des règlements de compte politiques au sein du Front National. Est-ce que Marine Le Pen sera en première ligne? Je pense que ça dépendra avant tout de sa propre attitude. C'est-à-dire, si elle s'arc-boute sur ses positions politiques aujourd'hui et si elle s'arc-boute sur la personnalité de Florian Philippot, ça va être très dur.
Ce sera le fusible?
Si en revanche, voilà, elle accepte de faire évoluer ses positions et surtout de sacrifier Florian Philippot, je pense qu'elle peut, sauf surprise, qu'elle peut largement sauver sa peau.
Alors Stéphane Ravier, qu'on a croisé à Fréjus, nous dit, bon, il n'y a pas de plafond de verre, puis les plafonds de verre, ça se brise. Avec son sens de la formule.
D'une certaine manière, il a raison. Moi, je me souviens d'un certain nombre de collègues qui ont dit au fil des années, le FN est arrivé au taquet, ils passeront jamais au-dessus, ils ont fait le plein, etc. Puis chaque fois, on a vu qu'ils sont passés au-dessus. Et en 2012, il y a des gens qui disaient, on a fait le plein, ils ont presque doublé leur potentiel électoral depuis. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de limite naturel, au sens où il faut s'intéresser aux dynamiques politiques et pas seulement aux dynamiques sociologiques. Il faut s'intéresser à l'interaction entre les deux. Or, aujourd'hui, les dynamiques politiques laissent un certain nombre de portes ouvertes. Après, il me semble qu'il y a quand même une règle de la Ve République dont il va être très compliqué de s'affranchir, c'est que lorsqu'on n'a pas d'alliés, on ne gagne pas au second tour. Et ça, aujourd'hui, c'est le gros problème du Front National.
Les dernières régionales ont consacré l'échec de la stratégie d'endiguement. C'est terminé?
Non, je dirais pas ça, parce que au final, le Front National n'a remporté aucune région, malgré ce qu'on lui promettait. Et avant ça, il avait remporté aucun département et très peu de sièges de conseillers départementaux. Donc la stratégie d'endiguement, elle fonctionne jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'elle fonctionne pour empêcher le FN de gagner des postes électifs, et en particulier des postes exécutifs. Par contre, elle ne fonctionne pas pour empêcher le Front National de gagner du terrain électoralement et au-delà, je dirais aussi idéologiquement. Parce qu'il y a dans cette question du Front Républicain et l'endiguement un impensé qui est que on fait tout pour empêcher les hommes et les femmes du Front National de parvenir à des postes électifs. Par contre, on ne fait rien pour empêcher les idées du Front National de gagner du terrain. Et quelqu'un comme Nicolas Lebourg, par exemple, nous invite à renverser la question, à se dire, est-ce qu'au final, il ne vaudrait pas mieux accepter le coup qu'il y ait une entrée significative d'hommes et de femmes du Front National dans des institutions en permettant une forme de modération des idées du Front National et peut-être surtout de prise de distance des autres partis politiques.
C'était la problématique des régionales en PACA, avec certains qui disaient il faut pas que la gauche se saborde, il faut laisser élire Marion Maréchal Le Pen si ça doit arriver et combattre Estrosi et Marion Maréchal Le Pen.
Tout à fait. Alors c'est évidemment une problématique très compliquée, hein, parce que on voit bien que le coût à payer peut.
Parce que le Front Républicain en PACA au régional a fonctionné.
Peut-être qu'il
va avoir des effets pervers, c'est ce que vous dites, mais ça fonctionne encore finalement, ce Front Républicain.
Si l'objectif qu'on se fixe, c'est d'empêcher à Madame Marion Maréchal Le Pen de devenir présidente de la région PACA, oui, il a fonctionné.
Mais il concerne qui ? Il concerne que l'électeur de gauche ? Parce que l'électeur de droite ne votera jamais, ne votera jamais en faveur de quelqu'un de gauche contre le Front National.
Quand on y regarde en détail, c'est plus compliqué que ça. Il est clair que les électeurs de gauche se mobilisent beaucoup plus massivement contre le Front National en faveur de la droite. Et là, ce qui était tout à fait frappant en régional, c'est qu'on a vu au second tour beaucoup d'électeurs de gauche qui n'avaient pas voté au premier tour, qui sont venus voter pour Christian Estrosi au second tour. Donc, c'est-à-dire que le seul candidat pour qui ils ont voté sur toute l'élection régionale, c'est Christian Estrosi, en considérant que la gauche n'était pas assez crédible pour aller voter pour elle. Donc, il est clair que l'électeur de gauche se mobilise aujourd'hui largement contre le Front National. Pour autant, dans les cas où la victoire du Front National face à la gauche est crédible, on voit quand même une mobilisation, même si elle est d'une ampleur moindre, des électeurs de droite, en tout cas d'une partie des électeurs de droite, contre le Front National. Donc ce Front Républicain, c'est comme la porosité entre la droite et l'extrême droite. Ce Front Républicain, il est asymétrique, je dirais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fonctionne au bénéfice exclusif de la droite. Mais effectivement, dans ce cadre-là, il fonctionne.
Son point d'acmé va arriver en 2017, à votre avis ? Deuxième tour ?
Probablement, j'avoue qu'aujourd'hui c'est très difficile à dire parce qu'on ne connaît pas encore l'offre électorale, on ne connaît pas la configuration. Et surtout, ça dépendra beaucoup, à mon avis, qui est le candidat de la droite. Si c'est Nicolas Sarkozy qui est le candidat de la droite, ça va quand même être compliqué pour un certain nombre de dirigeants de gauche et surtout d'électeurs de gauche d'expliquer qu'il faudra aller voter pour Nicolas Sarkozy contre le fascisme, après avoir passé globalement toute une campagne électorale à expliquer que Nicolas Sarkozy était un fasciste.
Alors ça, c'est le dernier chapitre de votre livre. Vous citez Pierre Dac avec malice. Il est difficile de faire des prévisions, surtout quand elles concernent l'avenir. Et finalement, vous faites plusieurs scénarios, mais vous les faites tous.
Donc, on ne prend pas trop de risques. Vous avez bien compris.
Voilà, effectivement, finalement, l'analyse électorale détaillée, les chiffres, etc., évidemment, ça aurait été trop joli, ne nous donne pas les clés de l'avenir. Par exemple, si on revient à la question du plafond de verre, à vous entendre, il n'existe pas. Ça serait plutôt la mécanique des institutions électorales, le principe de la nécessité de faire des alliances, qui serait aujourd'hui le frein principal à la montée du Front National, parce que sinon, les paliers, ils n'arrêtent pas d'en monter. 2014, 2015, chaque fois, des paliers. Donc, on est plus...
Je pense qu'aujourd'hui, le Front National est dans une dynamique qui lui permet d'agréger progressivement des groupes sociaux aux intérêts sociaux partiellement contradictoires. Mais comme il n'est pas dans l'exercice du pouvoir, la contradiction entre ses intérêts n'éclate pas, et aussi parce que l'opposition au Front National est très mauvaise à justement mettre en évidence ces contradictions, à faire ressortir ces contradictions. Donc je pense qu'aujourd'hui le FN est dans une dynamique qui lui permet de monter parce qu'il agrège des groupes sociaux successivement différents. Si demain le Front National devait parvenir au pouvoir, il est évident que cette dynamique-là serait enrayée parce que justement la contradiction entre ces intérêts sociaux éclaterait. Mais en même temps, je ne vois pas comment il serait possible pour le Front National de bâtir une coalition sociale qui, à elle toute seule, ferait 50% des voix. Dans l'histoire de la Ve République, aucun parti n'a jamais réussi à lui tout seul à faire 50% des voix, même le parti gaulliste à la grande époque. Donc ça me semble pas crédible.
L'expansion du Front National, quel que soit le scrutin proportionnel majoritaire, c'est plus un frein ?
Ça l'a jamais été. En réalité, en 86, quand on est passé du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel, ça n'a pas enrayé, au contraire, la progression du Front National. Donc je pense que le vote pour le Front National est assez peu sensible à ce type de considération, parce qu'on est avant tout face à un vote de revendication, d'exaspération, de manifestation de mécontentement ou de revendication de quelque chose, mais on n'est pas dans un vote très stratégique. Et en fait, ce vote, il devient stratégique au moment justement où, pour battre la gauche, certains électeurs du FN vont aller voter à droite. Mais en l'état actuel des choses, je dirais la règle électorale fait assez peu changer le niveau du Front National. Par contre, ça change évidemment la manière dont ce niveau-là se traduit en poste et en exercice du pouvoir derrière.
Une position entre vote d'adhésion, vote de protestation, elle est pertinente pour comprendre les motifs motivation ou c'est une grille d'analyse qui est bien à rien ?
Non, moi c'est une grille d'analyse qui me laisse sceptique. D'abord parce qu'on ne la mobilise que pour le Front National. On ne demande jamais à un électeur du Parti Socialiste ou du Modem ou que sais-je si c'est un vote d'adhésion ou de protestation. Et surtout, Nicolas Lebourg dit souvent, et je suis assez d'accord avec ça, que le vote FN est avant tout un vote lobby. C'est le vote des gens qui gagnent à tous les coups. Parce que si vous votez pour le FN... Bah, si le FN gagne, le FN gagne. Mais si le FN perd, les gens qui ont gagné disent « Ok, on a entendu le message, on va faire ce que vous voulez. » Donc finalement, quoi qu'il arrive, vous avez gagné parce que vous avez réussi à faire passer vos revendications dans l'espace public. Donc c'est à la fois un vote, certes, de protestation par rapport au reste de l'offre politique, mais c'est aussi un vote de mise en avant de certaines propositions et de certains enjeux très fortement dans le débat politique.
L'abstention, c'est toujours un des terreaux de l'avancée du Front National ?
C'est une question compliquée. Personne n'a jamais réussi à mettre en évidence de relations très mécaniques entre l'abstention et le vote FN. Pendant longtemps, on disait l'abstention profite au FN parce que, voilà. En fait, on s'est aperçu sur la période 2012-2015 que c'était plutôt l'inverse, qu'en fait, aujourd'hui, le FN était arrivé dans une phase où sa capacité de mobilisation était telle que lorsque le FN mobilisait ses électeurs, ça faisait reculer l'abstention. Donc, là, sur les derniers scrutins, on voit bien que plus l'abstention est faible, plus le vote FN était élevé. Donc il n'y a pas vraiment de relation mécanique. Je dirais ce qui est certain, c'est que le vote FN comme l'abstention manifeste dans les deux cas une forme de rejet ou en tout cas de déception et de défiance vis-à-vis de la politique.
Alors, il y a un point sur lequel vous êtes catégorique, c'est que dans la mécanique politique actuelle et vu le rapport de force, aujourd'hui, le FN fait les affaires plutôt de la droite. Ça a été le cas, hein, il y a longtemps. On a suffisamment commenté François Mitterrand et son supposé cynisme et calcul pour faire élire gagner des élections avec des triangulaires, etc. Aujourd'hui, cette histoire-là est au bénéfice de la droite républicaine.
Oui, dans le sens où ce que j'ai dit tout à l'heure sur la tripartition, enfin supposée tripartition, qui est en fait plutôt une bipartition asymétrique, fait que effectivement sur des élections type départementales ou demain législatives, je pense que ça, à la fin, c'est toujours la droite qui gagne. Par contre, quand on regarde d'un point de vue plus territorial et politique, aujourd'hui, le Front National est devenu un véritable problème pour la droite. Quand vous parlez avec des élus de droite dans le Vaucluse, par exemple, où la droite a quasiment disparu, le FN, c'est un vrai problème pour eux. Pourquoi ? Parce que c'est pas la droite aujourd'hui qui vient prendre l'électorat du FN, c'est l'électorat du FN qui est venu prendre l'électorat de la droite.
Les banlieues, alors terra incognita ou nouveau champ de conquête pour le Front National ?
Les banlieues ?
Les banlieues.
Ah, les banlieues, pardon.
Les banlieues aussi, enfin, les banlieues plus en plus.
Vieille histoire, là encore, on a un peu oublié aujourd'hui, mais dans les années 80 et encore au début des années 90, les banlieues étaient une terre d'élection du Front National. La Seine-Saint-Denis, par exemple, a été à un moment donné le premier département, ou l'un des premiers départements pour le vote FN. À Marseille, c'est plutôt dans les quartiers nord, en tout cas dans une partie des quartiers nord.
Enfin, les noyaux villageois.
Voilà. Aujourd'hui, très clairement, dans les noyaux villageois, dans les années 80-90, c'était un peu moins clair parce que la population des grands ensembles était un peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On avait encore des pionniers de ces grands ensembles qui étaient arrivés dans les années 60-70, qui aujourd'hui sont quasiment tous partis de ces grands ensembles-là, mais qui, eux, ont beaucoup voté pour le Front National à l'époque, en particulier à Marseille, les rapatriés d'Algérie, qui ont été mis dans les grands ensembles, etc. Donc les banlieues ont été à un moment donné un bastion du Front National. Ça a disparu fin des années 90, puis dans les années 2000. Aujourd'hui, le Front National tient très fort un discours visant à dire qu'il réinvestit les banlieues, mais c'est à mon avis, pour l'instant, un discours parfaitement vide de réalité, quand on voit que, au contraire, les banlieues sont aujourd'hui les espaces qui résistent le mieux au Front National.
L'émission se termine. Un pronostic au législatif, vous adorez les chiffres, vous avez fait des projections, je le sais. Combien de circonscriptions gagna pour le FN en PACA ? 0, 1, 2, 3, 5, c'est quoi l'échelle ?
Je pense qu'on 10. On est plutôt entre 5 et 10 qu'autour de 0, 1 ou 2. Oui.
Joël Gambin, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Le Front National va-t-elle diviser la France ? Aux éditions Erol. Merci, on se retrouve le mois prochain. Bye.
Merci beaucoup.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.